radiocultura.eus.
Et si l'écoute d'une seule page vous donnait envie de lire un livre? Corinne Litaille, collaboratrice passionnée de découvertes littéraires, partage avec vous ses coups de cœur d'auteurs locaux.
Mon coup de cœur du jour est le roman témoignage Madame Pacotille de la jeune auteure Maïalène Aiguilucu, paru aux éditions L'Harmattan. Cette œuvre, naviguant entre la vie parisienne et la campagne basque, témoigne du parcours de Mounia, une jeune femme dont les troubles de l'humeur vont réduire à néant l'insouciance et modifier durablement la façon dont ses proches l'aperçoivent et vivent avec elle. Ce roman de témoignage mêle le point de vue de la protagoniste à celui de son entourage. Une histoire empreinte de sensibilité, loin des préjugés liés aux maladies psychiques. Chapitre « Un père, un frère ». Cet après-midi-là, quittant son travail en sifflotant d'un air satisfait, Peyo s'aperçut qu'il avait un message sur son répondeur. Il mit des écouteurs sur ses oreilles avant d'enclencher le contact de sa voiture pour aller chercher sa fille. Le message était de sa mère. Il n'y prêta pas trop attention car la seule nouvelle sentait le réchauffer. D'après ce qu'elle disait, elle n'avait pas eu de nouvelles de sa fille depuis longtemps. Cela ne l'avait pas tellement intriguée les deux ou trois premières semaines. Mais après un mois et demi de silence, elle commençait à s'inquiéter. Cela faisait alors presque une semaine qu'elle l'appelait tous les jours sans le moindre résultat. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle sentait que quelque chose n'allait pas. Il alluma la radio, mais face à la route sinueuse, il ne l'écoutait pas. Ses pensées lui rappelaient le même refrain. Elle était comme ça, sa sœur, indépendante, mystérieuse et pas du tout amatrice de téléphone. Et Ama, c'était Ama. Lorsqu'il pensait à sa sœur, Peyo se remémorait toujours le passé. Durant leur enfance, il aimait beaucoup jouer ensemble. Ils avaient à peu près le même âge, Peyo étant l'aîné de 3 ans. Mounia adorait écouter son frère raconter les espiègleries à se rouler par terre qu'il inventait avec ses copains à l'école, surtout pendant la récré. Elle entrait souvent dans sa chambre, le soir, après le dîner. Assis sur son lit, le garçon, gesticulant et débordant de fierté, lui expliquait de long en large ses dernières frasques, les ruses utilisées pour éviter de se faire prendre et la façon avec laquelle il embêtait les filles. Sa sœur s'allongeait sur le lit en sautillant et l'écoutait longuement sans en manquer une miette, les yeux écarquillés. Elle aussi avait une imagination débordante et les mondes merveilleux qu'elle inventait rendaient son frère admiratif lorsqu'elle lui en faisait part. Il se souvenait également des histoires passionnantes qu'il s'inventait à la maison avec les guenilles trouvées dans le grenier. Leur désir de transformer leur vie en véritable aventure mettait leurs rêves en ébullition. Ils avaient fait de nombreux voyages périlleux sur les mers, avaient construit de multitudes de royaumes et créé bon nombre de personnages, humains ou animaux. Ils se rappelaient d'un jour en particulier où Mounia était devenu le bouffon Mumu, venu divertir la cour d'un éblouissant royaume. Un bouffon effronté et sarcastique qui n'avait pas hésité à jeter au visage des sujets présents dans la pièce, c'est-à-dire à la famille invitée à déjeuner, des plaisanteries caustiques d'un goût douteux. Les invités en étaient restés bouche bée, et le roi Peyo sur son trône ne put s'empêcher de rire à gorge déployée. Leur riche et solide relation évolua en grandissant, comme s'étiole l'énergie confiante de la magie de l'enfance, doucement mais sûrement. Lorsque chacun commence à se mettre en poche les clés qui servent à ouvrir les portes inévitables de terres nostalgiques. Après avoir été une lande aux 1000 plantes sauvages, leur vie adolescente devint un jardin sillonné de tâches à accomplir et de savoir-être à acquérir. Une terre labourée où, par endroits, des taupinières montraient les signes d'un certain rejet des exigences. Les années s'écoulant, chacun se limitait de plus en plus à sa propre existence, les anecdotes du bahut, les copains et les copines, les nouvelles expériences gravitant autour de leur ego et leur téléphone portable toujours chargé. Et au début de l'âge adulte, Peyo s'aperçut qu'il ne savait plus qui était la sœur qu'il avait aimée si tendrement. Il espérait que peut-être un jour ils seraient de nouveau réunis, si du moins ils avaient la possibilité d'habiter l'un près de l'autre. Le bac en poche, Mounia fit le choix de quitter la campagne où ils avaient grandi. Elle préféra le gris trépidant de la grande ville à l'aspect paisible de son vert pays, après avoir fait savoir à son entourage qu'elle aspirait à suivre ses études en goûtant à une nouvelle vie. Depuis lors, elle vivait et travaillait à Paris, et cela faisait longtemps que la jeune femme n'avait plus fait part à son frère des moments essentiels de son existence. Selon les confidences parentales, Mounia avait connu une période difficile quelques années auparavant, lorsqu'elle était, semblait-il, amoureuse d'un homme plus âgé. Sa sœur avait laissé entendre à leur mère que l'amant était déjà en couple avec une autre femme. Comme il lui avait promis qu'il quitterait sa femme, elle avait dépensé toute son énergie à croire en cet espoir, jusqu'au jour où l'ordure l'avait jetée comme une vieille chaussette. Il va sans dire que cet événement plongea la jeune femme dans une période pénible. Durant les quelques mois qui suivirent, elle eut beaucoup de mal à se lever le matin et à se traîner au travail, mais tant bien que mal, elle surmonta cette situation. Peyo ressentit alors une frustration décourageante, sa sœur n'ayant jamais sollicité son aide. Depuis lors, leur mère s'inquiétait bien vite pour Mounia. En arrivant devant l'école de Katialine, son père songea qu'il savait bien quelles angoisses pouvaient tourmenter un parent qui s'en faisait pour son enfant. Il ne le savait que trop bien. En descendant de la voiture, il décida qu'il allait appeler sa mère dès qu'il serait rentré pour la rassurer au moins un tant soit peu. Il embrassa sa fille et ils se dirigèrent vers leur maison en se racontant gaiement leur journée. Lorsqu'il passa la porte qui menait du garage vers le salon, Peyo ne s'était pas encore aperçu qu'entre-temps, sa mère avait essayé de le joindre plusieurs fois. Il n'avait rien entendu sur la route. Il se mit à préparer un bon goûter à sa fille sans se presser. La nouvelle dont il prit connaissance cette fin d'après-midi-là lui fit l'effet d'un tsunami, ainsi qu'à toute sa famille. Il appela sa mère. L'information lui tomba sur la tête, telle une lourde pierre. Au coucher du soleil, il ne supporta pas l'inconcevable. Transfiguré par la confusion, il oublia sa fille quelques heures. C'était impossible, inacceptable et incompréhensible. Ce qu'il venait d'apprendre était intolérable. Il se mit à se poser d'intarissables questions avant de les écrire inlassablement sur son ordinateur. Au téléphone, ses parents ne l'avaient point éclairé. Les cris d'amusement de sa fille le sortirent de sa confusion et le désordre qu'il trouva sur le sol du salon finit par le mettre hors de lui. Katialine reçut un énorme savon. Dans ses yeux perdus, son père reconnut toute l'angoisse ayant envahi son cœur. Et pour couronner le tout, cette nuit-là, après avoir entendu les pleurs de sa fille, il ne put fermer l'œil de la nuit. Mounia se trouvait enfermée à l'hôpital psychiatrique de Bayonne.
Radio Cultura. .eus